Temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 13 juin 2014. Chérubin Dorsil en compagnie d'Idriss Assédoudia. Au sommaire ce soir, en RCA appelle en cessez-le-feu immédiat préalable au dialogue national.
C'est l'impunité qui est toujours à l'origine de toutes les crises que nous cessons de vivre. Et cette fois-ci, cette crise est chaotique.
L'Union européenne appelle à créer un climat de confiance entre toutes les parties avant les élections en République démocratique du Congo.
Barack Obama refuse, concernant l'Irak, d'envoyer des troupes américaines malgré la progression fulgurante des djihadistes.
Et nous aurons le segment spécial sur la Coupe du Monde, déception Idrissa de la première équipe africaine à évoluer dans cette compétition. Le Cameroun a baissé pavillon face au Mexique.
Et chérubin, la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Nous ouvrons sur la République centrafricaine. Fin hier à Bangui des travaux préparatoires du prochain dialogue national. Les participants ont recommandé un accord de cessez-le-feu immédiat, la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation, entre autres. Le point avec Idriss Fall.
Après 3 jours de discussion, le panel a proposé un schéma différent des précédents dialogues. Il a recommandé d'abord un accord de cessez-le-feu immédiat, l'organisation de la réconciliation interbelligérante, la prise en compte de tous les mouvements, ex-Seleka, anti-Balaka, groupes d'autodéfense et même les forces armées centrafricaines. La mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Bruno Hyacinthe Gbieba, un représentant de la société civile à ses travaux.
C'est l'impunité qui est toujours à l'origine de toutes les crises que nous cessons de vivre. Et cette fois-ci, cette crise est chaotique. C'est pour cette raison que tous les participants ont résolu à recommander, entre autres, au cours de ce dialogue, qui est le droit de savoir. Et dans le droit de savoir, vous aurez cette articulation, à savoir la commission vérité, justice et réconciliation. Parce que le peuple centrafricain a le droit de savoir ce qui s'est passé, de connaître la vérité, qui est la justice, et aussi maintenant indemniser toutes les victimes. À ce moment-là, il y aura vraiment une réconciliation.
Par ailleurs, beaucoup d'habitants de Bangui sont très fâchés contre l'unique société de distribution de l'électricité. Il y a eu coupure de courant dans plusieurs quartiers pendant l'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil. NRK est appelée à revoir son calendrier de délestage. Et la société, de son côté, a promis de tout faire pour rectifier le tir pour permettre aux fans du ballon rond de suivre la grande fête du football mondial.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque du domicile du ministre de l'Intérieur, attaque qui avait fait 4 morts parmi sa garde. C'est la première fois que le groupe djihadiste fait une revendication en Tunisie, Issa Napon.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué les récentes attaques contre le domicile du ministre de l'Intérieur, Lotfi Ben Jiddu, qui en était absent. L'organisation djihadiste promet de recommencer jusqu'à abattre le ministre. Depuis plus d'un an, les autorités tunisiennes mènent une offensive contre les islamistes radicaux dans les montagnes de Kasserine, à la frontière avec l'Algérie. L'organisation djihadiste dénonce les mêmes politiques répressives que celles menées par l'ancien régime Ben Ali. Pour les djihadistes, lorsqu'on entre en guerre contre l'islam, il y a un prix à payer. Ils ont donc rendu coup pour coup jusqu'à l'attaque fin mai du domicile du ministre où 4 policiers ont été tués. Le ministre Ben Jiddu a indiqué aujourd'hui que malgré toutes ces menaces, la traque des terroristes se poursuivra dans le nord-ouest de la Tunisie.
En Afrique du Sud, après 6 mois de grève dans les principales mines de platine, un compromis a été trouvé entre syndicats et patronats pour sortir de l'impasse. Lionel Gaïma.
Le syndicat radical a accepté l'accord de principe avec le patronat sur les salaires. Joseph Matunjoua de l'AMCU a déclaré qu'ils ont accepté l'offre, mais il y a encore des questions qui méritent discussion avec le patronat. Cet accord devrait permettre une reprise de travail le 1er juillet chez Lonmin, l'une des 3 entreprises concernées. Le syndicat a accepté les détails de la nouvelle grille de salaire pour plus de 70 000 mineurs qui étaient en grève depuis le 23 janvier. Selon les médias locaux, ils ont accepté une augmentation de 1 000 rands par mois tous les ans pendant 3 à 5 ans selon les catégories. Les mineurs les moins qualifiés gagnent actuellement autour de 5 000 rands par mois, environ 345 euros, primes et allocations diverses non comprises et revendiquaient le double du salaire actuel.
La mission de suivi électoral de l'Union européenne a appelé vendredi à un véritable dialogue en République démocratique du Congo afin de créer un climat de confiance entre toutes les parties impliquées dans les élections. C'est ce qu'a déclaré, selon l'AFP, la députée européenne Maria Gabriel à la tête de la délégation qui séjourne à Kinshasa depuis une semaine.
Les autorités ivoiriennes trouvent qu'il y a relâchement de la vigilance dans leur pays face à la fièvre Ebola. Aucun cas n'a pour l'instant été signalé en Côte d'Ivoire, mais les recommandations visant à éviter de consommer ou manipuler de la viande de brousse ne sont plus suivies. La fièvre Ebola a fait en Guinée voisine plus de 200 morts depuis ses débuts en janvier.
Des enquêteurs du gouvernement américain annoncent que quelques 15 Somaliens américains se sont rendus récemment en Syrie pour se joindre aux islamistes qui tentent de renverser le gouvernement du président Bachar al-Assad. Des agents du FBI en ont fait le constat à Minneapolis-Saint-Paul, dans le Minnesota, où vit une importante communauté somalienne. Les autorités essaient de savoir comment on a pu radicaliser ces jeunes Somaliens américains.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant se rapprochent de la capitale, Bagdad. Le président américain Barack Obama a exclu aujourd'hui l'envoi de troupes américaines. Jacques Aristide.
Le chef de la Maison-Blanche a rappelé que son équipe de sécurité nationale étudiait toutes les options.
I have asked my national security team to prepare
Barack Obama a ajouté que l'enjeu est de s'assurer que les djihadistes ne s'installent pas de façon permanente en Irak ou en Syrie. Une déclaration qui intervient après la progression rapide et dangereuse de l'EIIL, malgré la réplique de l'armée irakienne. Après avoir conquis pratiquement tout le nord, les djihadistes ont pris Jalala et Saadiyah, deux villes dans l'est du pays, non loin de Bagdad. L'inquiétude est à son apogée, à tel point que l'ayatollah Ali al-Sistani, le plus haut dignitaire religieux chiite d'Irak, a appelé la population chiite à prendre les armes contre les combattants sunnites de l'EIIL. Le Premier ministre a été accusé d'incompétence, mais pour Nouri al-Maliki, les rebelles n'ont pas pu agir seuls. Il a demandé à toutes les tribus d'apporter leur soutien militaire à l'armée et à la police.
Le sergent de l'armée américaine qui a été détenu près de 5 ans par les talibans en Afghanistan est de retour aux États-Unis, Bagassi Koura.
Le sergent Bo Bergdahl a été traité dans un hôpital militaire en Allemagne. Il est arrivé ce matin dans un complexe militaire hospitalier de San Antonio, au Texas. Le Pentagone a déclaré qu'il bénéficiera des soins, du temps et de l'espace dont il a besoin pour son rétablissement. Le soldat Bergdahl a été libéré il y a 2 semaines après un échange avec 5 talibans afghans qui étaient détenus à la prison américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Le cas de Bergdahl a suscité un vif débat ici aux États-Unis. Certains législateurs américains ont critiqué M. Obama pour la libération des talibans et d'autres lui reprochent d'avoir ignoré la loi disant que le Congrès doit donner un préavis de 30 jours avant la libération des prisonniers de Guantanamo.
En Ukraine, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de Mariupol, ville portuaire de la région de Donetsk qui a changé de main plusieurs fois durant le conflit. Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsène Avakov, les forces de Kiev ont hissé le drapeau national ce vendredi sur le bâtiment municipal. Selon les séparatistes pro-russes, 5 de leurs soldats sont tombés au combat. D'autre part, le porte-parole du Kremlin a affirmé que des blindés ukrainiens ont franchi la frontière avec la Russie et ont été interceptés alors que Kiev avait formulé des accusations dans le même sens.
En Thaïlande, le chef de la junte, le général Prayut Chan-o-cha, a fixé une date limite pour la formation d'un gouvernement intérimaire d'ici le mois d'août, mais pas plus tard qu'en septembre. Un gouvernement sera établi, a déclaré le général Prayut ce vendredi devant des hauts gradés thaïlandais. Par ailleurs, la junte a annoncé la levée du couvre-feu dans tout le pays 3 semaines après le coup d'État. Selon les militaires, c'est pour réduire l'impact sur la vie des citoyens et promouvoir le tourisme.
Un sommet de 4 jours sur les violences sexuelles a pris fin aujourd'hui à Londres. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré aux délégués qu'il faut dénoncer cette pratique injuste, poursuivre les criminels et mettre fin à l'impunité. La conférence a réuni les responsables gouvernementaux, activistes et survivants du viol venant d'une centaine de pays.
Voilà pour le journal. Il est 19h40, temps universel bientôt, 15h40 à Washington, avec Chérubin Dorcel et Idrissa Seydoudia en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, notre magazine.
Ces succès foudroyants de l'État islamique en Irak et au Levant sont considérés comme un développement très embarrassant pour Washington. Les États-Unis ont consacré quelque 25 milliards de dollars à l'entraînement et l'équipement de l'armée irakienne depuis 2003 suite à l'invasion de l'Irak. Le président Barack Obama a exclu tout envoi de troupes américaines au sol, mais a souligné que toutes les options sont ouverte. Mais certains spécialistes estiment qu'elles sont très limitées car le président a rapatrié les troupes américaines d'Irak il y a seulement 2 ans et demi. Une des options pourrait être le recours aux drones contre les djihadistes irakiens. Mais pour le professeur Stéphane Zunes de l'Université de San Francisco, ces drones ont aussi leurs limites. Ce n'est pas une question de liquider une poignée de méchants et leurs différents repères. Nous parlons ici de milliers d'hommes armés qui contrôlent de vastes territoires, dont certains grands centres urbains. Une autre option pourrait être de fournir plus de formations d'armes et de renseignements aux forces en désarroi du premier ministre Nouri al-Maliki, mais là encore, il y a des risques. Le professeur Zunes, les soldats irakiens sont-ils vraiment décidés à barrer la route aux djihadistes?
You can arm and train the local government's armed forces.
Vous pouvez armer et entraîner les forces armées d'un gouvernement local tant que vous voulez, mais s'il s'agit toujours de savoir s'ils sont prêts à se battre et à mourir pour le gouvernement, malheureusement, le gouvernement d'Al-Maliki s'est mis à dos tant de gens dans le pays qu'il ne semble pas avoir assez de soutien populaire pour que les soldats soient prêts à sacrifier leur vie. Malgré tout, Andrea Krieg du King's College à Londres estime que l'armée irakienne, malgré ses insuffisances actuelles, reste la meilleure option face aux djihadistes. Selon lui, il suffit de la renforcer d'une façon ou d'une autre. Seulement, une armée ne se reconstruit pas en un jour, surtout après une débandade face à la progression fulgurante des islamistes.
Voilà, c'était Idriss Fall qui nous parlait du vaste éventail d'options qui se présentent aux États-Unis face à la progression des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Eh bien, ce groupe s'est déjà emparé d'une bonne partie du nord de l'Irak et menace maintenant de descendre sur Bagdad, la capitale. Et comme il l'a dit lui-même, les forces armées irakiennes se sont pratiquement évaporées. Gabi?
Le sommet sur l'éradication de la violence sexuelle dans les conflits s'est terminé aujourd'hui à Londres. Le point avec Michel Joseph.
La rencontre a abouti à la publication du protocole international sur la documentation et l'investigation de la violence sexuelle dans les conflits afin de briser la culture de l'impunité. William Hague, ministre britannique des Affaires étrangères.
Nous estimons que le temps est venu de mettre fin à l'utilisation du viol en temps de guerre, une fois pour toutes. Et nous pensons que c'est possible. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une question cruciale de paix et de sécurité internationale dans la prévention des conflits, qu'elle est essentielle à l'avancement des droits des femmes partout dans le monde, et surtout que c'est une question morale pour notre génération.
L'actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté pour le HCR, a co-présidé le sommet.
J'ai rencontré des survivants de l'Afghanistan à la Somalie et ils sont tout comme nous, avec une grande différence. Nous vivons dans des pays sûrs, avec un accès à des médecins quand nous sommes blessés, un accès à la police quand on nous a fait du tort et un accès à des institutions qui nous protègent. Ils vivent dans des camps de réfugiés ou dans les rues bombardées, dans des zones où il n'y a pas de loi, pas de protection et pas même l'espoir de justice. Ils luttent pour protéger leurs enfants. Et souvent, quand les victimes parlent, elles font face à encore plus de violence et sont rejetées par la société.
Pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, Aminu Wali, il est impératif d'inclure les femmes dans les processus de médiation et de consolidation de la paix et que les victimes reçoivent des réparations.
Sexual violence.
La violence sexuelle dans les conflits ne peut pas être éradiquée par des pays agissant seuls, de manière isolée. Il faut une coordination stratégique entre les pays.
La directrice de la PNUD, Helen Clark, estime que cette lutte ne peut être menée sans volonté politique.
Nous savons très bien que la violence contre les femmes ne s'arrête généralement pas à la fin d'un conflit. Dans l'est de la RDC, nous avons soutenu les autorités à enquêter sur des centaines de cas de violence sexuelle et à traduire les auteurs devant la justice.
Elle a appelé les gouvernements à lutter contre ce fléau, non seulement dans les zones de conflit, mais également en temps de paix.
Des années de sécheresse exposent la Californie cette année à de sérieux risques de feux de forêt. Les sapeurs-pompiers locaux se préparent à toute éventualité. Les précisions de Timothée Donangmaï.
De fortes températures ont contribué au mois de mai à la propagation de feux ravageurs près de San Diego, bien avant le début de la saison des incendies. Il faut dire que ces trois dernières années ont été particulièrement sèches en Californie, 2013 ayant battu tous les records. Du coup, la végétation extrêmement sèche n'attend que la moindre étincelle pour s'enflammer, explique le capitaine Richard Cordova, porte-parole du département des forêts et de la lutte contre les incendies de Californie.
When we have higher temperatures, lower humidity,
lorsque nous avons de hautes températures, un faible taux d'humidité, et lorsque vous y ajoutez du vent, vous avez la recette pour un danger extrême d'incendie. Et lorsque nous voyons ces trois éléments se combiner, nous commençons à acheminer les équipements. Dans la base de lutte anti-incendie de la ville californienne de Hemet, une unité aérienne s'entraîne. Des hélicoptères acheminent le personnel sur les lieux des sinistres et des avions-citernes déversent des trombes de produits retardants à partir du ciel. Pilotes et sapeurs-pompiers ont leurs sacs et leurs avions prêts. Des avions sont positionnés un peu partout à travers l'État de Californie et peuvent atteindre les zones d'incendie en quelques minutes, souligne le chef de bataillon Travis Alexander. L'avion est juste un des nombreux outils. Nous avons des équipes au sol, des bulldozers, des compagnies de pompiers et d'autres ressources. Les avions viennent en soutien. Dans une caserne voisine de sapeurs-pompiers, des équipes s'entraînent à la lutte contre les incendies en milieu urbain. Des efforts continus sont déployés pour faire face aux incendies. Cette année, les autorités californiennes ont recruté 300 nouveaux sapeurs-pompiers qui s'ajoutent aux milliers d'autres agents éparpillés à travers l'État et qui ont pour mission de surveiller la situation en cette année qui promet des incendies dévastateurs.
Le journal de la Coupe du Monde au Brésil, tous les jours sur nos antennes avec Bega Sikora, ses invités et notre envoyé spécial Nicolas Pino. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chirbe, bonsoir à tous. Je vous ai vu jubiler tout à l'heure.
Bon, jubiler c'est peut-être un peu fort, surtout pour Idrissa, c'est de dire qu'il n'aime que le basket. Mais vous avez vu le but, Idrissa, le but égalisateur.
Oui, oui, j'étais entendu. Alors donc, c'est l'Espagne qui joue contre les Pays-Bas dans ce duel européen. C'est le champion du monde, les Espagnols donc, qui ont ouvert le score avant de se faire rejoindre avant la mi-temps. Donc un but partout entre l'Espagne et les Pays-Bas. Mais dans le premier match, le premier représentant africain a entré en lice, le Cameroun, s'est fait battre par le Mexique. Une grosse déception, hein, Chirouvin.
Oui, une grosse déception, parce qu'on s'attendait à une équipe camerounaise beaucoup plus solide, beaucoup plus forte en attaque. Malheureusement, comme l'avait dit Jules Valentin Ngwe à 18h30 GMT, le Cameroun est un peu resté et n'est pas monté assez. Et finalement, c'est le Mexique qui a dominé la rencontre.
Oui, et c'est une grosse surprise et un choc aussi à Yaoundé et à Douala. Et pour comprendre ce qui s'est passé ce soir, nous avons en ligne de Libreville Jules Valentin Ngwe. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, merci pour bonsoir à tous.
Voilà, vous êtes l'un de nos meilleurs spécialistes en matière de football. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce soir avec le Cameroun? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Oui, le Cameroun a surtout perdu tactiquement. Et donc, il a trop respecté l'adversaire mexicain qui craignait énormément parce que l'équipe mexicaine, même si elle s'est qualifiée dans la difficulté, est constituée d'un groupe qui est en grande progression depuis 2 ans et joue un football léché et qui ne convient pas au grand gabarit camerounais. Et c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Les Mexicains ont passé leur temps à faire tourner le ballon avec leur toque traditionnel et en même temps envoyer des balles dans le dos de la défense camerounaise, ce qui a empêché les Camerounais de monter et ils ont joué très bas. Je crois que l'entraîneur aurait dû les pousser un peu plus en avant en faisant des changements judicieux et en préconisant un pressing haut.
Oui, il y a Idrissa ici qui veut dire un mot.
Oui, Jules, excusez mon ignorance, mais on appelle l'équipe du Cameroun les Lions Indomptables, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, depuis quand ont-ils été timides, les Lions?
Les Lions sont restés timides parce que, justement, on leur a pas donné les moyens de se battre. Les qualités intrinsèques des Lions, c'est d'abord les qualités physiques. Et vous voyez, dans les conditions de jeu telles que l'équipe joue très bas et court après le ballon, et les Lions ont marché pratiquement sur les rotules en fin de rencontre où les Mexicains étaient plus à l'aise. La chaleur et la pluie n'ayant rien arrangé dans tout cela. Donc je crois qu'il faut tout revoir, pas si c'est au niveau des individus, mais au niveau du positionnement et redonner du tonus à ces joueurs.
Alors on a vu hier les prochains adversaires des Lions, la Croatie, mais aussi le Brésil. Comment est-ce que le Lion peut rebondir?
Oui, mais je trouve, je dis honnêtement que l'adversaire le plus dangereux, je l'ai toujours répété depuis le début, pour les Lions, c'était le Mexique.
Pas le Brésil.
Contre les équipes européennes, les Camerounais sont beaucoup plus à l'aise. Le jeu est plus physique. Les passes ne sont pas données dans les espaces vides, mais sont données au pied. Et là, les duels sont constants. Les Camerounais se sentent plus à l'aise. On les déplace un peu moins. Donc le Brésil, qui joue aussi comme une équipe européenne actuellement, est beaucoup plus à la portée tactiquement des Lions Indomptables que le Mexique.
Donc tout n'est pas perdu pour le Cameroun, Jules? Tout n'est pas perdu?
Oui, tout n'est pas perdu pour le Cameroun. C'est sûr, c'est une longue compétition. Déjà, le fait qu'il n'ait encaissé qu'un seul but au lieu de deux, ça fait que au niveau du goal différence, on a vu des compétitions où tout le monde se retrouvait à 4 ou à 3 points, ou à 4 ou à 5 points, et finalement, c'est le goal différence qui allait jouer. Donc, il faudra qu'il rentre sur le terrain pour gagner la seconde rencontre qui est la plus déterminante et la dernière. Si le Brésil est déjà qualifié, et c'est sûr que ce n'est pas le même Brésil qu'ils auront en face.
J'imagine que vous avez suivi aussi la première partie de cette rencontre qui est à la mi-temps entre les deux équipes européennes, les champions du monde, donc les Espagnols, contre les Néerlandais, un but partout. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est un très beau match et on s'y attendait. Bon, un match comme celui-là qui est digne d'une finale qu'on nous met au début d'une compétition de poule, automatiquement les deux équipes, pendant l'essentiel du jeu, cherchent à gagner le match pour être qualifiés pratiquement, parce que le vainqueur sera qualifié pratiquement. Et dans le moins bon des cas, un nul ne les dérangerait pas. Bon, donc les équipes vont nous donner du spectacle et peut-être fermer un peu plus le jeu en fin de rencontre.
Alors, avec cette défaite du Cameroun, l'Afrique est quand même mal partie dans ce mondial. Est-ce que vous pensez que demain, on pourra avoir le sourire avec le match des éléphants contre le Japon?
Oui, non, il y a rien à dire. Même... Je dis, l'Afrique a d'abord pour mission d'être au niveau de la compétition. Les scores sont là pour témoigner si l'équipe est au niveau de la compétition. Coup de défaite, des matchs nuls, des victoires, parce que tout se joue sur les détails. Mais en ce qui concerne la confrontation entre les éléphants ivoiriens et les Japonais, et les éléphants ont plus d'atouts entre leurs mains et réellement, l'équipe est homogène, se connaît depuis très longtemps, a une certaine maturité. C'est une équipe mûre qui va jouer face au Japon, un Japon qui est en période de renouvellement. Et je pense que honnêtement, actuellement, la Côte d'Ivoire part avec les faveurs des pronostics.
Alors, on parle beaucoup de l'arbitrage. Hein. Depuis hier, on a vu 3 buts refusés tout à l'heure dans le match Cameroun-Mexique. Et hier aussi, il y a eu ce pénalty dont tout le monde parle. Un mot sur cet arbitrage d'hier surtout, parce que beaucoup disent que le pays organisateur a été favorisé.
Bon, donc, disons que si on peut, il faut savoir que dans cette grande compétition, l'espoir des organisateurs, c'est que le pays organisateur ne sorte pas au premier tour. Ça, il faut partir d'abord de là. Dans toutes les coupes du monde, on a senti un peu ce climat en début de compétition. Mais en ce qui concerne le deuxième but brésilien, le pénalty, il y avait faute au départ de l'action et le défenseur a fait en fait une demi-faute. Il l'a lâché juste à temps pour l'attaquant Fred a bien sûr exagéré sa chute. Mais ça restait maintenant à l'appréciation de l'arbitre. Et moi, si j'avais été arbitre, je n'aurais pas sifflé le pénalty. Mais je comprends que l'arbitre l'ait sifflé.
Et bon, qu'est-ce que vous auriez sifflé là ?
Sur des petits détails. Mais l'arbitrage, il faudra s'attendre à ce que l'arbitrage s'améliore au fur et à mesure que la compétition va avancer.
Alors, Idrissa, veut vous poser peut-être une question ?
Non, en fait, je constate la réaction de Gabi qui est d'accord avec l'appréciation, si je puis dire, de Jules. Mais demi-faute, à mon avis, ça n'existe pas, Jules. Une faute, c'est une faute.
Peut-être vous parliez du coup franc indirect au lieu de pénalty.
Non, tout simplement, c'était à la discrétion de l'arbitre et je crois que c'est ce que veut dire Jules Valentin.
Il a tout le pouvoir.
La discrétion de l'arbitre.
Voilà. Il a tout le pouvoir de décider qui peut passer ou... Voilà. Et donc, la FIFA est revenue à la défense donc, de son arbitre japonais, l'arbitre Yuichi Nishimura. Donc l'Italien Massimo Busacca, le patron des arbitres au sein de la FIFA, est venu en défense donc, de cet arbitre. Il était bien placé, a-t-il dit, et depuis sa position, il a jugé les gestes, a souligné M. Busacca, qui est le patron des arbitres au sein de la FIFA. C'est tout donc pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde. C'était Bagassi Koura au micro. Merci Jules, bonsoir.
Bonsoir, à bientôt.
À bientôt.
Alors, nous nous permettons d'utiliser cette même note, cette musique de la Coupe du Monde, Idrissa, pour parler de la NBA.
Oui, ton équipe favorite.
Les San Antonio Spurs.
N'est-ce pas, avec le vieil homme.
Tim Duncan.
Voilà, a eu raison des Miami Heat et de LeBron James, c'est incroyable. Après 3 victoires...
Aucune équipe dans l'histoire de la Ligue n'a jamais pu remonter cette pente.
C'est pas donc très encourageant pour Miami. Mais écoutez, tout est possible dans la NBA. Peut-être qu'il y aura un sursaut du côté de Miami.
C'est vrai. Et la série compte 7 matchs et il faut en gagner 4. Et il nous en reste seulement un à gagner. Donc, quand je vous dis nous, je veux parler de San Antonio, bien sûr.
Oui, je sais, mais si vous perdez le prochain match, sur le plan psychologique, ça pourrait vous affecter.
Oui, c'est donner de mauvaises idées à l'adversaire, ce que je ne souhaite pas.
Lui redonner vie, hein, en quelque sorte.
Voilà, c'est la fin de cette édition qui a été mise en ordre par Lionel Gaïman. Nous avions Tian Wang à la console technique.
Bon, et laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Prochain rendez-vous disons demain, n'est-ce pas ?
Enfin, oui, demain 18h30.
Demain 18h30.
Demain c'est samedi. Hein.
Oui, oui.
C'est lundi 18h30.
Oui, mais enfin, il y aura un bulletin de nouvelles à
bien
18h30.
Bien sûr. Yeah, rendez-vous avec La Voix de l'Amérique demain.
Voilà, merci. Et nous, ça, c'est Ludia et
Chérubin Dorcy.
Voilà.